Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de Femmes. La semaine dernière, on a traité d'un sujet très important et d'actualité, c'était l'inceste. Et j'en ai discuté avec Manon Vincent et Pierre Faubert. Et puis, nous avons abordé le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. Eh bien, figurez-vous que cet ouvrage a fait naître un mouvement de dénonciation qui s'appelle hashtag MeTooInceste, qui a récolté 80 000 mentions en 2 jours sur Twitter. Alors, on parle d'un mouvement évidemment historique et c'est peut-être la fin de l'omerta autour de l'inceste. Enfin, on le souhaite. Donc, aujourd'hui, notre thème est télétravail, perte d'emploi et fragilité psychologique. D'octobre 2019 à octobre 2020, 68% des emplois perdus au Québec étaient occupés par des femmes, selon le ministère du Travail. Donc, avec nous pour en parler, notre chroniqueur, le psychologue clinicien Pierre Faubert, en deuxième partie, mais tout de suite après la pause, je m'entretiens avec Maître Marianne Dessureau, responsable des affaires juridiques au sein de l'Association pour la santé publique du Québec.
Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de moi, chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir. Je perds la raison à chercher tes bras, brûlant de passion. Viens, embrasse-moi de tes grands yeux noirs, l'étrange lumière à nimber le soir de tous les mystères.
C'était Pamplemousse, les yeux noirs. Bonjour Maître Marianne Dessureau, bienvenue à Terre de Femmes. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, vous avez été admise au Barreau du Québec en 2015. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat en études internationales, concentration en droit international, d'un baccalauréat en droit et d'un certificat en droit et travail de l'Université de Montréal. Et depuis 2018, vous êtes responsable des affaires juridiques au sein de l'Association pour la santé publique du Québec et porte-parole représentante officielle de l'organisme. Ça vous fait un beau CV, ça?
Ça fait long, à dire comme ça.
Alors, le résultat d'un rapport réalisé par l'Association pour la santé publique du Québec et l'Observatoire québécois des inégalités ont été publiés dans les médias le 11 décembre dernier. C'est d'ailleurs là que j'ai vu l'information. Et les résultats sont assez alarmants. Donc, on disait en début d'émission, entre octobre 2019 et octobre 2020, 68% des femmes ont perdu leur emploi. C'est le double des hommes. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a fait que l'association est devenue, s'est intéressée à cette étude-là?
Mais au début, vers le mois de mars, après que le gouvernement ait annoncé les premières mesures d'urgence sanitaire, l'Association pour la santé publique du Québec a voulu connaître si ces nouvelles mesures créaient des changements mm-hmm. au niveau des habitudes de vie des Québécoises et des Québécois. Donc, un sondage a été fait auprès d'un 1000 répondants environ. Et les conclusions, bon oui, il y avait des changements d'habitudes, mais plus particulièrement, mm-hmm. on a remarqué une différence quand même importante pour les femmes. Okay. Dans le fond, il y avait plus plus d'impact mm-hmm. chez elles. Donc, on a voulu creuser un peu cette question. Et dans les mêmes moments, l'Observatoire québécois sur les inégalités publiait également, en partenariat avec l'Association pour la santé publique, un rapport qui disait que les femmes et les groupes plus vulnérables étaient davantage touchés par la pandémie. Mm-hmm. Donc, creusant okay. cette question, oui. on n'a pas attendu mm-hmm. et on a fait des sondages et une revue de littérature. Donc, un sondage auprès de 1500 femmes oui. Adultes. Et mm-hmm. également, on a questionné des organismes communautaires, donc plus d'environ 24 organismes communautaires, pour savoir quels étaient leurs enjeux et quel est le portrait des femmes et de leur quotidien là, suivant les mesures d'urgence sanitaire et en pandémie.
Mm-hmm. Et ces femmes-là, vous les avez prises dans tous les milieux?
Oui, mais en fait, c'est un sondage via la firme Léger okay. qui a été fait, 1500 femmes.
Et donc, c'était pas dans un domaine en particulier?
Pas dans un domaine. D'accord. Donc, c'est vraiment le but de représenter le plus possible la population générale, donc d'accord. la population féminine. Mm-hmm. Et on a pu comparer avec des résultats qu'on avait antérieurement, pris une revue de littérature, donc fouiller un peu est-ce qu'il y a d'autres sondages ailleurs qui ont été faits. Mm-hmm. Et sonder surtout des organismes communautaires qui offrent des services aux femmes pour qu'on puisse cibler là, quels sont les enjeux et mm-hmm. quels sont les besoins.
Et c'est de là qu'est sorti le fameux résultat.
Le fameux rapport.
Dites-moi, est-ce que vous êtes surprise des résultats?
Bon, surprise. On savait déjà au Québec qu'il y avait certaines inégalités avec des groupes plus vulnérables et que les femmes, bien qu'on ait eu des avancées importantes mmh. au cours des dernières années pour assurer une égalité, on savait que ces inégalités, que ce soit en emploi, en rémunération ou même en charge de travail au niveau de la famille, ça demeurait. Mm-hmm. Bien, ce qu'on a constaté, c'est que la pandémie, comme toute autre crise, oui. bien, ça accentue, ça augmente ces inégalités-là. Donc, est-ce qu'on est vraiment surpris? Pas vraiment, puisqu'on savait qu'il existait des lacunes et oui. c'est venu empirer un peu ces lacunes. Mm-hmm. Et ce qu'on espère, c'est ne pas trop reculer
oui,
dans l'égalité.
Effectivement, parce qu'on a l'impression, avez-vous l'impression qu'on avance, puis qu'on avance un peu, on recule beaucoup?
Bien, c'est surtout le constat de des organismes communautaires que l'association a sondé. Qui sont venus dire, ben, sur certains aspects, bon, on a été moins touchés, mais mm-hmm. pour d'autres, et c'est leur constat, on est en train de reculer.
Oui, et quels aspects vous pensez?
Principalement en termes de travail, okay. Cheminement de carrière, oui. Au niveau de la charge mentale, donc mm-hmm. L'aspect psychologique, oui. et finalement, là, l'égalité de revenus, l'égalité de travail homme-femme oui. Au niveau de la famille.
Et justement, parlant de la charge mentale, avec le télétravail, c'est compliqué, hein? Ça devient... Parce que ouais. les enfants et tout...
Bien, ça demande beaucoup pour les femmes, pour plusieurs aspects. Donc, il y a beaucoup de constats là, dans notre rapport, mais entre autres, beaucoup de femmes, plus de 50%, sont maintenant en télétravail, oui. Avec les enfants, par exemple, à la maison. Mm-hmm. Devoir subvenir toutes aux obligations familiales, oui. s'occuper de l'éducation, quand même avoir les mêmes objectifs au niveau de leur emploi. Oui. Et tout ça, ben, dans le fameux même 24 heures que tout le monde.
Oui, tout à fait. Et pourquoi, d'après vous, c'est les femmes qui se retrouvent davantage en télétravail que les hommes?
Mais cet aspect n'a pas été nécessairement creusé, mais souvent, ce qu'on sait vraiment, c'est que les femmes se retrouvent plus souvent en télétravail à cause du type d'emploi qu'elles occupent. Mais oui. aussi des fois de la nécessité qu'elles ont de vouloir soit réduire leurs heures oui. ou assurer une flexibilité mm-hmm. au niveau de pour assurer la charge familiale. Donc, elles se retrouvent à la maison à devoir faire tout en même temps, avoir la tête un peu partout.
Oui. Et en plus, excusez-moi, mais en plus, en mars dernier, quand les écoles ont fermé, c'était catastrophique pour elles.
Effectivement, en première vague, le sentiment d'urgence a forcé le gouvernement à fermer l'ensemble et beaucoup de services.
Mm-hmm.
Et donc, les femmes se sont retrouvées du jour au lendemain,
oui.
un à la maison, donc pas nécessairement équipées,
mm-hmm.
Que ce soit juste ergonomiquement parlant,
oui.
mais aussi à devoir garder le cap sur leur emploi, mais à devoir gérer les enfants à l'école,
mm-hmm.
qui étaient maintenant Parfait. À la maison, et sinon, s'ils ne vont pas à l'école, devoir les occuper. Donc, mm-hmm. les familles de jeunes enfants, ça devenait beaucoup plus difficile. Et souvent, ce sont les mères qui se sont retrouvées soit à la maison à devoir s'occuper de oui. la famille, alors que le père pouvait, soit en raison des types d'emplois qu'ils occupaient, continuer.
Et comment quel lien vous faites entre le télétravail et la perte mm-hmm. d'emploi? Parce que le sondage, en fait, traite les mm-hmm. deux pôles.
C'est deux aspects. Il faut le prendre de deux aspects. Donc, un premier constat a été que les femmes se retrouvent en télétravail
oui.
majoritairement et avec les défis que cela pose.
Oui.
Mais en deuxième point, c'est que les niveaux de revenus et d'emploi ont diminué aussi chez les femmes parce qu'elles occupent souvent des emplois qu'on appelle plus atypiques, donc qui font plus de télétravail. Mm-hmm. Donc, ce sont des femmes qui se retrouvent des fois avec des salaires moindres
oui.
dans des épiceries ou dans des boutiques de linge, dans des boutiques de services, dans la restauration. Et donc, elles se sont retrouvées parce que soit volontairement, elles faisaient moins d'heures, mais mm-hmm. ce sont les premiers postes qui ont été coupés.
D'accord.
Donc, elles ont perdu ces emplois-là.
Mm-hmm.
Des fois, elles les ont retrouvés. Des fois, ça a été de manière plus permanente.
Oui.
Et d'un autre aspect. Donc, c'est comme deux groupes de femmes qui, finalement, se retrouvent avec des nouveaux enjeux au niveau du travail qui augmentent leur charge mentale.
Et dites-moi, est-ce que vous avez l'impression, à travers toute cette crise-là, qu'il y a eu des employeurs qui ont utilisé, justement, cette période-là pour se départir de salaires additionnels ou pour, en fait, faire un déficit zéro?
Je ne veux pas prêter d'intention aux employeurs. C'est certain que lorsqu'on a des choix à faire
mm-hmm.
dans l'économie que nous avions et que nous avons toujours,
oui.
ben, des choix sont à faire. Et souvent, ben, c'est les emplois temps partiel. Donc, mm-hmm. on a besoin de réduire la masse salariale
oui.
et c'est les emplois temps partiel qui partent en premier. Et ben, souvent, ce sont les femmes qui occupent ces emplois-là.
Oui.
Parce qu'elles réduisent leurs heures
mm-hmm.
et ce sont des salaires moindres.
Oui.
Et donc, elles ont été les premières à perdre leurs emplois.
Mm-hmm. Mais oui, on l'avait vu, on a fait une émission l'automne dernier justement sur la charge mentale et on se disait justement que les femmes prenaient beaucoup d'emplois à temps partiel pour mm-hmm. s'occuper de leurs enfants.
Mm-hmm.
Et après, au niveau financier, ça les désavantage.
Énormément.
Et au niveau social aussi.
Mais tout à fait. En ce oui. moment, mais ça se retrouvait, ce sont des femmes qui sont retrouvées du jour au lendemain plus isolées, donc mm-hmm. n'ayant soit plus d'emploi,
ouais.
avec un stress sur est-ce que je vais être capable de subvenir à la fin du mois
ouais,
aux
ouais.
besoins de ma famille et même aux miens.
Mm-hmm. Tout à fait. Mais restez avec nous, c'est très intéressant, Maître Dessureau. Donc, on revient tout de suite après la pause.
Inside of me for oh I don't know how long I don't know why but I keep thinking that something's bound to go wrong but she looks in my eyes and makes me realize and she says Everything will turn out
said, well, baby, when you race today, just take along my love with you. And if you knew how much I loved you, baby, nothing could go wrong with you. Oh, what she does to me when she makes love to me. And she says,
Don't worry, baby.
Everything will turn out all right.
Don't worry, baby.
Everything will turn out just fine.
Don't worry, baby. C'était The Brook and the Bluff. Donc, je suis toujours en compagnie de Maître Marianne Dessureau, responsable des affaires juridiques au sein de l'Association pour la santé publique du Québec. Maître Dessureau, le ministre du Travail, Jean Boulet, invite les femmes à s'inscrire au programme d'aide à la relance avec de la formation. Ce programme vise à offrir des formations aux gens qui voudraient rehausser leurs compétences ou leurs qualifications. Est-ce que vous croyez que c'est réaliste? Est-ce que les femmes, financièrement, peuvent se permettre de suivre une formation en pleine pandémie? Est-ce que c'est réaliste au niveau financier et au niveau du temps? Est-ce qu'elles ont le temps?
C'est une excellente question. Bon, c'est sûr, ça fait partie des mesures qu'on tente de mettre en place pour refavoriser l'égalité.
Oui.
On n'a pas mesuré spécifiquement, nous, en fait, dans le rapport, on n'a pas vu que c'était un besoin nécessairement en tant que tel de vouloir avoir de la formation. Par contre, est-ce qu'on peut être contre l'obtention de nouvelles formations? Aucunement. Ça peut peut-être convenir pour certaines femmes qui ont besoin, parce qu'on le rapport, ce qu'il met en évidence, c'est que dans certains domaines, les femmes ont manifesté certains besoins. Donc, au niveau des entrepreneurs, avaient besoin de plus au niveau de la technologie, ou donc de favoriser dans certains emplois, peut-être, entre guillemets, plus masculins. Donc, de ne pas être à la merci. Donc, oui, ça peut combler certains besoins, mais certainement que ce n'est pas la seule mesure qui doit être mise en place. Il y a beaucoup d'autres mesures pour assurer l'égalité. Il y a plein d'autres femmes, comme vous le dites, qui n'auront pas le temps ou l'argent nécessaire pour entamer une telle formation.
Oui, parce que c'est pas pris en charge par le gouvernement, les formations. Oui?
J'ai pas mesuré spécifiquement ce projet de subvention.
Oui, ça mentionne pas.
Ça mentionnait pas nécessairement. Donc, peut-être que certains organismes vont l'offrir. Tant mieux si c'est le cas. Je pense que ça pourrait vraiment aider à alléger le fardeau fiscal déjà plus important en temps de pandémie pour les femmes. Mais c'est certain que ce n'est pas la seule. Et les femmes, ben, elles éprouvent un besoin d'alléger justement, d'avoir un répit, de pouvoir prendre du temps pour elles, prendre soin de leur santé mentale.
Oui, et absolument.
Pas uniquement avec de la formation qui va pouvoir parvenir à ses fins.
Oui, puis en plus, peut-être que, bon, les femmes qui ont perdu leur emploi, c'est pas une question de compétences ou peut-être qu'elles aiment ce qu'elles font.
Tout à fait.
Ce qu'elles font et puis elles n'ont pas envie de changer d'orientation.
Ah ben, tout à fait. Et tout ce qu'elles souhaitent, c'est espérer pouvoir reprendre. Là, elles ont laissé leur carrière.
Oui.
Et ce n'est pas nécessairement un manque de formation. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'autres mesures qui doivent, et d'autres accommodements qui doivent être faits en milieu de travail pour favoriser l'embauche et l'emploi des femmes.
Oui. Le ministre dit aussi, demande aux employeurs d'être plus ouverts, de faire preuve de flexibilité. Selon vos observations, est-ce que vous croyez que les employeurs prennent des mesures concrètes dans ce sens-là?
Mais ça fait partie de nos recommandations, dans le fond, que le milieu du travail et que dont les employeurs font partie fassent preuve de flexibilité ou puissent accommoder pour favoriser la fameuse conciliation famille-travail ou études.
Donc en donnant moins d'heures? En allégeant les fonctions, en faisant quoi?
Ça peut être ça, par exemple. Ça peut être de revoir les objectifs annuels ou ça peut être, des fois, donner des congés. On sait que les femmes, avec ce rapport, qu'elles ont tendance à prendre... Elles ont été plus nombreuses à prendre en charge, par exemple, une personne de la famille pour les soins de santé, donc être proche aidante. Mais c'est du temps. Oui. Ça ajoute à la charge mentale. Donc, mm-hmm. peut-être que des congés ou des heures plus flexibles oui. pourraient venir compenser et alléger tout ça.
Mm. Et justement, vous parlez de recommandations. Mm-hmm. Donc, vous avez parlé de moments de répit. De quelle oui. façon vous voyez la chose?
Bien,
au niveau des enfants aussi, hein?
Oui, exact. Un des exemples, c'est les fameuses haltes garderies. Mm-hmm. En fond, sans avoir inscrit son enfant à un CPE ou à une garderie qui demeure par ailleurs en cette deuxième vague ouverte,
oui.
donc ça, heureusement, des fois, juste avoir un 2 heures.
Oui.
Des fois, ça peut être aussi banal que dire « ben j'ai besoin d'aller faire les courses
mm-hmm. ».
Ben, aller faire les courses, des fois, avec 1, 2 ou 3, 4 enfants, ça peut devenir une aventure.
Ben, surtout présentement, se laver les mains, oui.
Se laver les mains, il ne faut mm-hmm. pas que les enfants touchent, il ouais. ne faut pas qu'ils prennent des objets.
Ouais.
Ça ajoute au stress. Donc, même un moment comme ça devient très stressant.
Mm-hmm.
Avoir une halle garderie, pouvoir voir que la mère puisse avoir 2 heures pour elle, ça pourrait faire toute la différence.
Mm-hmm. Dites-moi, le rapport indique aussi que près d'une femme sur 5 s'est sentie plus déprimée et anxieuse depuis le mois de mars. C'est énorme. Environ 65 % des participantes à l'étude, donc sur les 1500 que vous parliez dès oui. le départ, affirment que leur niveau de stress a augmenté. Et c'est compréhensible, mais qu'est-ce qu'on fait?
Ça, la grande question.
Mm-hmm.
C'est sûr qu'il y a de l'argent qui a été annoncé comme étant investi en santé mentale, heureusement. Il va falloir que ces ressources puissent être mises à disposition et rapidement
mm-hmm.
Au niveau de l'aide. On parle souvent de traitement, mais il y a aussi, faut voir là, pour l'avenir aussi en prévention. Il n'y a pas assez d'argent mis en prévention pour justement prévenir des situations comme ça.
Et comment on peut prévenir?
Mais j'ai envie de dire aux femmes, elles ne sont pas seules. Il y a beaucoup d'organismes communautaires plus proches qu'elles le croient ou mm-hmm. parfois qui offrent des services. Malheureusement, ces services sont souvent méconnus.
Mm-hmm.
On va parler de lignes générales des fois au gouvernement,
mm-hmm.
mais des fois sans cibler, des fois par région mm-hmm. ou de certains services.
Oui.
Les halles garderies, soutenir des fois l'éducation, donc avoir un peu plus... des fois d'aide au niveau pour les études, pour les enfants. Ça
oui.
peut être toutes des petites mesures qui peuvent venir alléger, éviter à la mère de dire, par exemple, ben, je vais être obligée de travailler après mes heures de travail.
Mm-hmm, je comprends. Et est-ce que l'homme, à ce moment-là, pourrait pas s'impliquer davantage?
Ah ben c'est sûr, c'est certain que c'est le monde idéal.
Oui.
Puis on voit beaucoup d'efforts, puis ça a énormément changé dans les dernières années.
Mm-hmm.
Moi, je pensais plutôt des fois à des parents monoparentaux.
Oui, il y en a de plus en plus. Hein?
Beaucoup, oui, exact.
Oui.
Donc, c'est de plus en plus fréquent. Donc, il ne faut pas les oublier. Les pères peuvent prendre une charge lorsque c'est possible.
Oui.
C'est sûr, ça allégerait énormément.
Mm-hmm.
Mais les parents, au sens général, demeurent avec une charge mentale quand même importante en
oui.
ces temps de pandémie.
Oui.
Il faut penser à eux aussi,
oui.
En général, et leur offrir des répits ou des petits bonbons, si
oui.
je peux dire, des fois.
Et en fait, le stress et l'anxiété que mm-hmm. cette crise-là apporte, c'est oui, par la charge de travail, par aussi les obligations financières,
oui.
mais aussi la fatigue et les enfants et le confinement. Parce que, je veux dire, avoir 3 enfants autour de soi et être obligé de faire du télétravail, c'est pas évident. Donc, effectivement, mm-hmm. ça augmente le stress, l'anxiété. Après, les nuits sont courtes.
Oui, mm-hmm. c'est un des constats. La qualité du sommeil avait
oui.
énormément baissé chez les femmes, également chez les parents.
Mm-hmm.
Donc, ce qui vient des fois avec un stress accru.
Oui.
Donc, c'est tout un environnement un peu stressant là, en ce moment qu'on vit. Donc, il faut penser à elles. Il faut penser également, des fois, vous parliez d'anxiété, de mm-hmm. femmes qui ont démontré avoir une santé mentale plus précaire en ce moment ou qui se disaient plus affectées.
Parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive.
Toujours quelque chose, un imprévu. On
oui.
est comme plus capable de faire face à cet imprévu.
C'est ça. C'est un trop-plein, hein?
Oui, exact.
Un trop-plein psychologique,
tout le temps
émotionnel.
Émotionnel,
oui.
la culpabilité aussi qui peut venir avec ça.
Oui.
Donc, en se disant, j'ai plus le temps. J'ai
mm-hmm.
plus le temps accordé soit à mon travail, à mes enfants.
Oui.
Ça ajoute à cette charge mentale, en plus de dire, est-ce que je vais être infectée par la COVID?
Oui,
est-ce que
oui.
mes enfants vont l'être?
Mm-hmm.
Est-ce qu'ils vont réussir leur année scolaire?
Oui, oui. Ben, effectivement, c'est quand on a encore notre travail. Quand on
oui.
perd, là, on est rendu à un autre niveau de stress.
Est-ce que je vais avoir un logement?
Oui, comment je vais faire pour vivre? Quels sont les commentaires, les récurrents, en fait, que vous avez obtenus à travers ce sondage-là des femmes?
Bien, il y a eu sondage. Dans le fond, il y a eu certains constats faits par les femmes, mais il y a aussi eu des commentaires des organismes communautaires.
Oui.
Pardon. Donc, c'est un peu des fois différent.
Ah oui, d'accord.
Dans le fond, les femmes mentionnaient, comme vous le disiez, avoir plus de symptômes de dépression, de crise de panique, d'anxiété. Elles ont été également plus nombreuses à dire que des fois, la violence conjugale a augmenté.
Oui.
Ce qui est quand même très inquiétant.
Oui.
Donc, de se dire que plus de femmes victimes se disent ça s'est accentué, soit pour moi ou pour mes enfants.
OK. Donc, un stress additionnel.
Un stress additionnel avec les nouvelles mesures en se disant qu'est-ce que je fais?
Oui.
Est-ce que je peux sortir? Est-ce que je vais être accostée par la police? Est-ce que je veux compter mon histoire maintenant?
Oui.
Dans ce sondage, les femmes disaient mentionner aller souvent chez des proches.
Oui.
Ben, là, on ne peut plus aller chez les proches.
Ben non, on ne peut plus sortir.
Donc, c'est l'isolement. Donc, souvent, cet isolement est revenu.
Oui.
Les organismes communautaires mentionnant le manque de ressources financières, des fois pour subvenir à la nouvelle demande, que ça serait important de remettre de l'argent en prévention.
Oui. Et vous m'avez dit aussi avant l'émission qu'il y avait des femmes aussi qui avaient commencé ou accentué leur consommation d'alcool et de cannabis, justement pour...
compenser.
Pour s'engourdir, peut-être.
Exact, ça c'est l'hypothèse qu'on émet, mais le constat a été que la malbouffe s'est accentuée. Donc les femmes ont mentionné avoir une moindre qualité d'alimentation, mais aussi augmenter consommation d'alcool, cannabis. Alors, on a pu... Et ça a été permanent. Dans le fond, on l'a mesuré depuis le mois de mars. Jusqu'ensuite en octobre.
Mm-hmm.
Et c'est demeuré assez constant, cette fameuse augmentation de la consommation.
Mm-hmm.
Donc, est-ce que c'est... En ce moment, on n'a plus d'échappatoire.
Oui.
Il n'y a plus de moment. Donc, il faut trouver un moyen,
pour
comme vous dites, de s'engourdir, de s'échapper de ce quotidien.
Mm-hmm.
Et il faut juste espérer que ces changements d'habitude ne seront pas nécessairement permanents.
En 30 secondes, qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes qui nous écoutent pour garder l'espoir?
Mais qu'elles ne sont pas seules, de faire ne pas hésiter, de faire appel aux ressources, même des fois un voisin qui peut peut-être aider. Et qu'on espère que socialement, on puisse investir en prévention pour éviter que les inégalités restent à long terme.
D'accord. Merci infiniment, Maître Marianne Dessureau, responsable des affaires juridiques au sein de l'Association pour la santé publique du Québec. Merci d'être passé, ça a été très éclairant.
Merci beaucoup de l'invitation.
C'est un plaisir. Restez avec nous après la pause, nous parlons avec Pierre Faubert.
Vous écoutez Terre de femmes avec Marthe Saint-Laurent.
Je rappelle le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est télétravail, perte d'emploi et fragilité psychologique. Nous traiterons la deuxième partie de l'émission avec Pierre Faubert, notre chroniqueur psychologue clinicien. Soyez avec nous.
He venido al desierto para reírme de tu amor, y que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ah.
Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste.
He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar.
Ay. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí.
He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego.
C'était Lhasa, El Desierto. Alors, Pierre Faubert, bonjour.
Oui, bonjour, Marc.
Bienvenue à l'émission.
Oui.
Donc, pour une deuxième fois cette année, en 21. Alors, écoute, on parle de fragilité psychologique. Pierre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça te dit pour toi? Qu'est-ce que c'est?
Ben, fragilité psychologique. Premièrement, je me pose toujours des questions lorsqu'on utilise le mot psychologique. Mm-hmm. Hein, à quoi est-ce qu'on se réfère? Tu peux demander à je ne sais pas combien de personnes, puis ils auront ou elles auront des définitions différentes pour ce qu'on veut dire par psychologie. Moi, je pense qu'on peut parler ici de difficulté ou de fragilité émotionnelle.
Ouais.
Et parce que psychologie, hein, c'est une science. Hein? La psychologie, c'est une science. Alors donc, on applique à des personnes... une définition ou un mot qui, en fait, est utilisé dans un contexte scientifique. Mm-hmm. Alors, je préfère utiliser émotionnel. Alors donc, oui, il y a une fragilité émotionnelle, mais la fragilité émotionnelle, elle est peut-être même apprise dans certains cas. On apprend à être fragile. Mm-hmm. On a appris à être passif ou à être passif. On apprend à dépendre. Alors, c'est pas du jour au lendemain qu'on est dans la fragilité émotionnelle. C'est pas tous les enfants mm-hmm. qui naissent avec une fragilité émotionnelle.
Ouais.
Alors donc, ça vient de loin. Ça vient de ce qu'on a vécu. Ça vient de comment on a été, presque certifié, confirmé dans nos émotions lorsqu'on a exprimé nos émotions.
Mm-hmm.
La plupart du temps, moi, quand je rencontre des gens qui sont dans cette fragilité-là, c'est parce qu'elles n'ont pas été entendues, elles n'ont pas été écoutées, elles n'ont pas été reconnues, et pour toutes sortes de raisons. Et c'est pas pour blâmer quelqu'un, c'est pas pour trouver des coupables, c'est juste qu'on est tous et toutes plus ou moins compétents, peut-être, au niveau de l'écoute, au niveau de... l'identification au niveau de la reconnaissance des émotions que nous vivons.
Mais Pierre, pourtant, il y a des femmes qui sont extrêmement fortes,
oui.
qui n'ont pas, sur le plan émotionnel, sont très bien équilibrées, sauf qu'avec l'ajout de problématiques, avec l'ajout d'obstacles et d'épreuves, oui, j'entends bien que c'est au niveau des émotions que ça se passe, mais c'est oui. au niveau aussi psychologique.
Ben,
souffrir d'anxiété puis de stress, c'est, pour toi, c'est oui, ça va avec les émotions?
Mais moi, je pense qu'on vit dans une espèce de mythe idéaliste du zéro stress. Il y aura toujours du stress.
Oui, mais là, on est à un autre niveau.
Et puis, ouais, mais le stress est même nécessaire. Le stress, c'est un signe de vie. Et puis là, je ne veux pas faire l'apologie du stress.
Non, non.
Mais ce que je veux dire, c'est que... Et puis non plus, je ne veux pas la démoniser. Parce que le stress, c'est ni bien ou mal. Ça existe.
Mm-hmm.
Et c'est une alarme, le stress. Ça nous dit qu'il y a quelque chose qui pourrait être potentiellement dangereux. Alors, c'est ça. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait du stress pour que nous puissions bien mesurer le danger. Maintenant, le danger que une femme va vivre sur le plateau, une femme qui va vivre à Westmount, une femme qui va vivre à Montréal-Nord ou bien dans Griffintown, ça va être différent. Et puis, ce n'est pas juste à cause de où elles habitent, c'est à cause de qui elles sont.
Oui, bien sûr.
Et donc, c'est pour ça que, bon, on peut bien apprécier les statistiques, mais derrière ces statistiques, il y a des personnes.
Oui, bien sûr.
Et donc, ce qui m'intéresse davantage, moi, c'est la personne. Alors, moi, si j'ai des cas de vécu de personnes qui sont affectées par cette situation-là, là, on peut faire quelque chose.
Mm-hmm.
C'est pour ça que je trouve que c'est un sujet extrêmement difficile parce qu'on regarde ça dans une trop grande globalité. Et puis, c'est un peu comme si on essayait d'attraper un éléphant. Tu sais, essaye d'attraper un éléphant. Par quoi tu vas l'attraper?
Mm-hmm.
C'est énorme, c'est immense.
Ben moi, la façon dont je vois ça, Pierre, c'est que oui, effectivement, on a des chiffres, mais les chiffres viennent seulement comme... nous conforter dans l'idée que la situation est grave. Donc, ce n'est plus un problème, un problème individuel. Ça devient un problème de société.
Ben oui.
Parce
qu'il
y en a...
qu'est-ce que tu peux faire avec la société, Marthe?
Non, mais... Je
peux rien faire avec la société.
Je comprends, Pierre, mais ça veut dire que présentement, les femmes sont vraiment dans une situation qui ne les favorise pas sur le plan émotionnel. Je suis d'accord avec toi.
Oui.
Mais aussi psychologique, quand même.
Oui, oui, mais encore une fois, là, qu'est-ce que tu veux dire par psychologique, toi, Marc?
Que ça affecte, en fait, ta façon de penser, que ça affecte aussi même, je te dirais, tes compétences. Quand tu n'es plus capable de te concentrer, c'est plus juste au niveau émotionnel, que tu n'es plus compétent.
Ça, c'est un handicap. Bon.
Tu sais, l'anxiété, est-ce que c'est émotionnel, ça, ou c'est psychologique, faire des crises d'anxiété?
Tout est psychologique, Marthe. Et quand on dit psychologique, c'est un peu comme si on disait psychologique, ça veut dire quelque chose de pas correct.
Non.
Tout est psychologique. Nos émotions, notre façon de penser, notre perception. Et je pense qu'il y a une chose ici dont on ne parle pas beaucoup, même si c'est dans les cours 0, 100, 101 de la psychologie, c'est la perception. Et donc, quand on pense à ces personnes, hommes ou femmes, ici en particulier les femmes, eh bien, comment elles se perçoivent? Eh bien, si elles se perçoivent à travers le filtre des médias, oh my God, c'est comme si on est foutu, là. C'est comme si on était les plus seuls au monde, c'est comme si on était les plus handicapés au monde, c'est comme si on était les plus faibles et puis on est complètement isolés.
Mm-hmm.
Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas de toutes les femmes. Alors, moi, je pense que y a... Puis quand on dit inégalité puis déséquilibre, je ne suis pas en train de vouloir démolir les rapports, mais ce que je veux dire, c'est allons plus loin que le rapport et essayons de donner un visage à ces statistiques-là, aux femmes qui sont là, qu'on peut rencontrer et avec lesquelles on peut parler. Parce que ce qui est c'est assez curieux dans les statistiques et les rapports comme ça, c'est qu'on part d'entrevues avec des personnes, donc on est en contact avec des personnes, puis après ça, on transforme ces rencontres-là en chiffres.
Mm-hmm.
Ben, qu'est-ce qu'on fait, là? On vient de dévêtir et puis d'enlever la substance. Et on reste avec les statistiques.
Mais tu proposes quoi, Pierre, pour faire réfléchir les gens ou pour dire à ces familles,
ben,
regardez,
pense,
vous n'êtes pas seuls, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, je pense que tu fais une partie de la solution en interviewant les personnes, puis en parlant. Mais moi, je pense qu'on doit encore donner encore plus de voix aux femmes. C'est en entendant les voix, c'est en entendant les émotions dans les voix, dans les visages, dans les regards des personnes que nous allons pouvoir détecter. Ah, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a derrière les mots? Qu'est-ce qu'il y a derrière les paroles? Et là, on peut essayer de trouver des solutions avec elles. Et ça, c'est l'autre problème, c'est qu'on essaye toujours de faire des choses pour les autres. C'est débilitant. Parce que moi, par exemple, quand les gens viennent en thérapie, moi, je ne fais pas les choses pour eux ou pour elles. je fais des choses avec elle.
Oui.
Et c'est elle qui trouve la solution avec de l'aide. Mais la solution, elle est en elle. C'est pas moi qui ai la solution.
Mais c'est un peu ce que les organismes communautaires proposent, c'est de les aider.
Oui, exactement, mais encore là, il faut informer les gens de ça. Alors, quand tu as des personnes qui sont dans une détresse tellement énorme
oui.
qu'elles sont dans un état de panique, elles ne peuvent pas entendre ça.
Non, mais bien sûr.
Ben non,
parce
mais c'est
qu'elles
ça.
Sont, okay, parce
mais
qu'elles
là,
sont dépassées.
C'est là le problème. Alors donc, le problème, c'est comment faire en sorte qu'on puisse rejoindre ces femmes-là.
Mm-hmm.
Tu sais, la femme aujourd'hui, là, qui est quelque part dans un logement où elle est complètement seule, puis débordée, puis oui. que c'est insalubre, et puis que, tu sais, elle s'est peut-être fait battre. Bon, ben, dans quel état elle est, elle?
Mm-hmm.
Mais c'est elle qu'il faut aller chercher.
Oui.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire une vigilance. Ça veut dire une vigilance des personnes qui voient
mm-hmm.
pour celles qui sont mal prises dans oui. des conditions qui deviennent des statistiques.
Donc, l'environnement, c'est important.
Exactement. Et c'est plus que
l'entourage.
Les réseaux, c'est plus que ça. C'est des mm-hmm. voisines, des voisins, des voisines.
Mm-hmm.
C'est des gens qui vont, comme on dit, checker, oui. appeler, vérifier. Et c'est pas parce que j'ai un bracelet qui va indiquer que je viens de tomber à terre puis que je bouge plus pendant une demi-heure que quelqu'un va venir m'aider.
Mm-hmm.
Faut être là. Et c'est pour ça que moi, je pense que le gros du problème, c'est comme dans tout. C'est un manque de réseau, un manque de communauté. Et il y a, OK, c'est vrai, on dit communauté, on veut dire mettre ensemble. Et là, aujourd'hui, ben, on a de la difficulté parce qu'on
oui,
on dit aux gens d'être distancés.
Oui, tout à fait.
Mais OK, donc il faut trouver d'autres façons d'être avec l'autre.
Mm-hmm.
Et puis, bon, ben, mettons nos masques, lavons nos mains, utilisons les gels et puis tout ce qui est à notre disposition. Gardons nos distances. Mais c'est pas parce que je suis à 6 pieds ou à 2 mètres de l'autre que je suis pas présent.
Oui. Reste avec nous, Pierre. On continue tout de suite après la pause.
September, where we passed them on the midnight embers, but it's gone like a half-remembered dream. Left the north of where we met, thinking better of going west. Yeah, we lost each other in a river stream. I thought I'd come and find you there, wait until you lost your hair and got your place out in the woods. You're not afraid of trees or bears. It's more than love, no, nothing, no, not nothing, no, not nearly. We've not got long, you know, to bask in the afterglow. Once it's gone.
Oh, C'était Laura Marling, Nothing But Nearly. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Pierre Faubert. La conversation est animée. Hein, on ne s'entend pas trop sur la fragilité psychologique et émotionnelle. Ce n'est pas grave. On continue, Pierre. Alors, on va parler de la santé mentale. Donc, on va parler de quand on perd un emploi. Donc, là, on va s'entendre sur ça. Donc, dans la perte, dans l'échelle des stress, on a le décès de l'enfant du conjoint, après on a la perte d'emploi, puis après on a le déménagement. Donc, c'est quand même un élément stressant dans une vie sur un être humain. Alors, si on ajoute à ça la charge mentale, si on ajoute à ça les problèmes financiers, si on ajoute à ça, bon. Donc, on perd notre emploi, alors il y a quand même un stress considérable.
Oui. Bien, il y a ce qui vient avant la perte d'emploi, et ce qui vient pendant, et ce qui vient après. Oui. Il y a comme un effet domino. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi ce que ça signifie, tout ça, pour soi. Plus c'est important, plus je m'identifie à la chose. Par exemple,
l'emploi,
nos fonctions. La maison dans laquelle j'ai habité pendant 25 ans ou quelque chose comme ça, là. Eh bien, il y a une question d'identification et de bien-être, finalement, à moins de déménager parce que la place n'a plus d'allure. Hein. Mais c'est quelque chose dans lequel on est généralement bien. Alors, la perte d'emploi, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont peut-être même pas tout de suite, mais qui seront par la suite plus heureux du changement. Il y a des personnes que je rencontre qui me disent que si ça ne va pas être de la pandémie, je serai toujours pogné dans le même dans la même ornière.
Mm-hmm.
Et puis ça m'a donné un coup, et puis voilà que je sors et j'ai trouvé autre chose. Je reviens à la perception. Si je suis tellement en fusion, et dans la fusion, tu sais, hein, on se perd dans la fusion.
Mm-hmm.
Si on est fusionnel avec notre travail, si on perd notre travail, on vient de se perdre. Alors, mon travail, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi.
Mm-hmm.
Et donc, si mon travail est supérieur dans le sens où je suis subordonné à mon travail, c'est clair que je perds mon travail puis je viens de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais si je pense que mon travail, c'est un moyen pour arriver au bonheur, eh bien, donc, à ce moment-là, c'est pas le seul moyen pour arriver au bonheur. J'entendais ce matin, en pensant à cette émission, des podcasts. Ça aussi, c'est une chose. Écouter des podcasts, c'est différent de de s'astreindre à écouter des émissions de radio ou de télé qui nous sont projetées sur nous et que nous devons subir. Un podcast, on le choisit.
Oui.
Alors, je trouve qu'il y a une analogie là qui peut être utile dans la mesure où est-ce que je subis ma vie ou bien est-ce que je vis ma vie? Et donc, il y avait un podcast qui s'appelle L'ambition au féminin.
Oui.
Et c'est une série de podcasts.
Mm-hmm.
Et il y a une série de podcasts sur les bonheurs, etc., etc. Bien, moi, ce que j'en retire de ça, c'est qu'il y a des personnes qui subissent leur vie et il y en a d'autres qui assument leur vie.
Oui.
Bon, tu vas me dire, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non, non.
Tu vis dans mes pensées, Pierre.
Ouais, mais c'est sûr. Parce que on parlait d'inégalité tantôt. Mais encore là. Il y aura toujours des inégalités.
Bien
sûr. Sur la ligne de départ aux Jeux olympiques, tu as je sais pas combien d'athlètes qui courent, là, t'en as, c'est pas moi, peut-être 8.
Oui.
C'est toutes les meilleures au monde.
Mm-hmm.
Mais il y a de l'inégalité là aussi.
Mais bien
la preuve,
sûr,
c'est qu'il y en a un qui va arriver premier, puis il y en a un autre qui va arriver le dernier.
Oui, oui.
Mais ce sont les meilleurs au monde. Fait que, tu sais, il y aura toujours de l'inégalité.
Oui, mais...
Et l'inégalité, c'est... mais c'est parce qu'on donne à l'inégalité un caractère, on lui donne une valeur morale.
Oui, mais là, dans ce cas-ci, l'inégalité, c'est les femmes. Ça s'appelle les femmes.
Mais là, c'est une généralisation. Oui. Tu sais, moi, je dirais qu'il y a des femmes qui subissent des traitements qui font d'elles des personnes qui ne sont pas respectées dans leur dignité.
Mm-hmm.
OK? D'accord. Mais de parler en général des femmes, les femmes, tout ça, non, non. Et puis moi, je pense que les femmes et des femmes peuvent s'entraider. C'est qu'il y a, l'inégalité qui n'est pas à cause des hommes ou à cause de d'autres structures. il y a des inégalités chez les femmes parce qu'il y a des femmes qui sont jalouses. Il y en a, tu sais, on a eu
oui, une émission sur le bitchage, bien sûr. Bon, ben, oui, ça existe aussi. C'est, oui.
Fait que, je pense qu'encore là, il faut faire attention dans la généralisation pour ne pas avoir les bons mm-hmm. et les méchants.
Non, bien sûr. Donc, c'est pas le but non plus.
Non. Et puis, l'autre affaire, c'est que je trouve que on met beaucoup sur le dos de la pandémie. Mais mm-hmm. la pandémie, là, c'est une loupe. C'est la loupe qui fait grossir ce qu'on ne
la
voyait pas.
La problématique, oui.
Oui, ce qu'on ne voyait pas. Mm-hmm. Et puis, moi, quand les gens viennent me rencontrer, j'ai jamais été aussi occupé là, que maintenant.
Oui, j'imagine
mais
bien.
Mais c'est pas parce que les gens viennent me voir et puis disent « Ah, c'est je suis psychologiquement totalement défaite à cause de la pandémie.
Mm-hmm. »
Il n'y a personne qui est venu me dire ça. Toutes les personnes qui viennent me rencontrer, et je pense que ça doit être la même chose avec mes collègues, viennent parce que dans ce contexte de la pandémie...
Oui, la problématique a ressurgi.
Oui, exactement. Mm-hmm.
Ça, je suis d'accord avec toi.
Oui. Bon, oui. Et donc, c'est ça.
Si
et
on
donc,
s'entend
à ce moment-là, à ce niveau-là,
oui.
Moi, je dirais que, tu sais, les grosses difficultés qu'on nomme sont des difficultés qui sont d'ordre matériel, qui sont logistiques, qui sont stratégiques, qui sont gouvernementaux, etc. Ça, le gouvernement s'en occupe, puis tant mieux. Mais la chose personnelle, c'est que on dit qu'avant, c'était normal. C'était pas normal. C'était automatique.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'on vivait dans une espèce d'automatisme.
Oui.
On était parti là, pour la gloire, et puis on pensait pas à ce qu'on faisait. Alors là, aujourd'hui, on voit beaucoup mieux, à cause de la pandémie, qui est une loupe, les inégalités,
oui.
Les difficultés que les femmes, les enfants, les hommes
aussi. Les pertes d'emploi dans les secteurs où c'est fermé.
Mais écoute, ça, encore une fois, c'est pas un psychologue qui va trouver
une
solution.
Non, je suis d'accord avec toi, Pierre. Je suis d'accord avec toi.
Okay.
Ce que tu nous parlais tantôt, c'est une forme de résilience. Tu dis,
oui.
les femmes ou les gens arrivent dans la problématique avec ce qu'ils sont. Donc, il y a
oui.
des gens qui vont rebondir,
oui.
puis il y en
exact.
A qui vont se laisser...
Tout à fait.
Oui. En fait, descendre par le bas.
Oui, exactement. Et puis, cette résilience dont tu parles, qui est un terme un peu galvaudé aujourd'hui, mais quand on écoute celui qui nous a introduit...
C'est la capacité de rebondir.
Ben oui, mais celui qui nous a surtout introduit à ça, Boris Cyrulnik,
oui.
eh bien, lui, quand il parle de résilience, il parle de beaucoup... il faut l'écouter, là, tu sais.
Oui.
Parce qu'il parle de comment on devient résilient.
Oui. Mm-hmm.
Et puis Boris Cyrulnik, là, il met beaucoup dans la préparation à la résilience.
Oui.
Tu sais, la résilience, c'est
tu
pas...
Tu te lèves pas un matin, t'es résilient.
Non, exactement.
Non, non.
C'est ouais. qu'on l'a préparé ou on l'a pas.
Oui, tout à fait. Oui.
Et puis
ben,
la
je pense
vie,
que
la
tout
vie,
le monde
là,
peut l'avoir.
La vie, c'est un sport.
Mm-hmm.
C'est comme un sport. C'est comme n'importe quoi. Si on se laisse aller, puis qu'on fait pas ces exercices, puis qu'on se pratique pas, puis qu'on se prépare pas, ben on va perdre la course.
Puis il y a quand même des périodes, Pierre, par contre, on a beau se pratiquer et tout, on devient vulnérable.
Ah, ben ça, oui. Et puis la vulnérabilité, ben oui, mais la vulnérabilité et l'aveu de la vulnérabilité, ça n'est pas une faiblesse.
Non.
C'est une force. Moi, je pense que quand on reconnaît
oui.
sa vulnérabilité,
t'as raison.
On est plus fort
mm-hmm.
que quand on ne le sait pas.
Alors, pour ces femmes-là,
oui.
Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont dans une période vulnérable
oui.
au lieu de dire qu'elles sont
exactement,
qu'elles ont une fragilité
psychologique? Exactement. Et
psychologique.
Donc, cette vulnérabilité est un appel à s'arrêter.
Revoir. Oui.
Et percevoir autour de soi la réalité qui est là. Qu'est-ce que j'ai comme outil? Si je ne l'ai pas, ben je vais aller chercher. Et
merci.
Puis là, je vais aller voir mon voisin ou ma voisine.
Oui, pour voir ça va bien, puis je vais le dire ça va pas bien.
Voilà.
Je vais l'inciter à aller voir.
Oui.
Merci infiniment, Pierre.
Okay.
Ça a été très éclairant. Alors, bien animé, comme j'aime. Donc, un immense merci à nos invités, Maître Marie-Anne Dessureau, responsable des affaires juridiques à l'Association pour la santé publique du Québec, ainsi qu'à Pierre, notre chroniqueur psychologue. Merci à toute l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Un merci tout particulier à vous qui nous écoutez et qui revenez chaque semaine. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de Pierre Faubert. Nous attaquons les difficultés avec la personnalité que nous avons. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.